Alors, je reviens sur Galates 5, verset 22, si vous avez votre Bible, et nous allons considérer le fruit de la fidélité divine. C'est la fidélité divine comme qui est produit dans l'homme par l'action du Saint-Esprit. C'est un fruit de l'Esprit dans la vie de l'homme. Alors, si vous regardez votre texte, vous avez soit le mot fidélité, soit le mot foi. Alors, pourquoi cette différence? Ben, le mot pistis, qui est le mot grec pour foi, se trouve plus de 200 fois dans le Nouveau Testament. Et il y a, ce mot a deux sens. Le sens de foi, c'est-à-dire confiance qu'on peut mettre dans quelqu'un d'autre, ou fidélité, c'est-à-dire digne de la confiance de quelqu'un d'autre. La fidélité, selon le dictionnaire, ou la foi en fait, la première définition du mot foi dans le dictionnaire, c'est le souci de la foi donnée, le respect des engagements pris. Donc, même en français, le mot foi, surtout avant, moins aujourd'hui, mais la foi avait ces deux idées de fidélité et de confiance, d'engagement d'un côté et d'assentiment de l'autre côté. Donc, dans le domaine de la fidélité, l'idée dominante est celle d'engagement, assurance donnée de tenir un engagement. Donc, on parle de violer ou de trahir sa foi. On parle d'être fidèle à la foi donnée. On parle de fidélité aux exigences, de l'honnêteté, s'en remettre à la foi de quelqu'un. S'en remettre à la foi de quelqu'un, c'est remettre à sa fidélité. Mais c'est vrai que maintenant, pour le mot foi, l'idée dominante est celle d'assentiment, confiance assurée en quelqu'un ou en quelque chose. Donc on parle de mettre sa foi en quelqu'un d'autre. Mais ici en Galates, je suis convaincu que le mot foi est utilisé dans ce sens de fidélité. Pas dans le sens de mettre sa confiance dans quelqu'un, mais d'être soi-même digne de confiance. Et donc dans le Louis II du 1910, nous avons le mot fidélité. On peut dire ça aussi parce que la foi n'est pas en fait un fruit de l'esprit. La foi que nous exerçons en Dieu est un don de Dieu. De Pierre 1, verset 1, je vous lis, « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. » Ils ont reçu cette foi, c'est un don de Dieu. Et la foi donc n'est pas une caractéristique de Dieu. Dieu n'a pas la foi dans l'homme. Dieu ne vit pas par la foi, parce qu'il voit tout. Donc, la foi n'est pas un fruit, une caractéristique de l'esprit, mais Dieu est fidèle. Dieu est toujours fidèle. Donc, nous parlons de la fidélité. Et si vous avez le mot foi dans votre Bible, je vous encourage de mettre dans la marge le mot fidélité. C'est ça vraiment dont il parle ici, comme fruit de l'esprit, la fidélité. Et la fidélité est nécessaire à toutes les relations humaines. Quelqu'un a dit, et je cite, « La fidélité est même dans le domaine naturel, le fondement sur lequel toute société finalement repose. Toutes les transactions commerciales, tous les traités internationaux, toutes les relations conjugales et familiales sont établies sur la base d'une présomption de fidélité des parties contractantes. Leur succès ou leur échec dépend en grande partie de l'accomplissement par les intéressés de leurs engagements réciproques. L'absence de loyauté amène le désordre. » Donc nous avons tous besoin de fidélité pour que nous puissions faire confiance même au lendemain, ce qui peut se passer au travail, dans le gouvernement, dans le domaine de l'école ou dans le domaine même de la famille. Alors, première chose que je veux noter ce soir, c'est que la fidélité est un attribut divin. puisque c'est le fruit de l'esprit, c'est lui qui le produit, ça vient de lui, ça fait partie de sa nature. La fidélité est un fruit divin. Je vous lis 1 Corinthiens 1:9 qui dit « Dieu est fidèle ». Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. 2 Timothée 2:13 nous dit ceci, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Dans un vrai sens, je ne peux pas être infidèle, parce que ça va à l'encontre de qui il est, de son caractère, de sa personne. Et je vous invite à trouver Hébreux chapitre 3. J'aimerais lire les 6 premiers versets ici. Donc vous pouvez les visionner vous-même. Hébreux chapitre 3. Il dit, je commence au verset 1. « C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. » Alors, c'est qui l'apôtre ici? Il va le dire juste après, verset 2. Jésus qui a été, notez ceci au verset 2, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa mission, maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est, c'est-à-dire Christ est fidèle comme fils sur sa propre maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Vous voyez, la fidélité de Jésus-Christ envers nous, sa maison. Quand Dieu s'engage envers l'homme, il s'engage à rester toujours fidèle. Jésus a pris la coupe la nuit avant d'être crucifié. Il a dit ceci, la nouvelle alliance. Chaque fois que Dieu entre en relation avec l'homme, c'est toujours à travers une alliance, où il y a plusieurs alliances dans la Bible entre Dieu et les hommes. Et Dieu s'engage à rester toujours fidèle à ses alliances. Il n'est pas un Dieu capricieux ou imprévisible, mais un Dieu qui demeure toujours fidèle. Et la nouvelle alliance est en son sang et il a promis d'être fidèle à son Église jusqu'à l'éternité. Donc nous avons un Dieu qui est fidèle. Un grand prêtre, un souverain sacrificateur qui est fidèle, un époux qui est fidèle. Dans toutes ses relations à nous, son Église, Dieu, le Saint-Esprit, le Fils, demeure fidèle. Donc c'est un caractéristique de Dieu. Mais deuxièmement, la fidélité, c'est quelque chose qui est produite en nous par l'Esprit. Ce n'est pas naturel. C'est produit en nous par l'Esprit. Écoutez, 2 Pierre 1:4, il dit ceci, ce sont des mots surprenants. Vous deveniez participants de la nature divine. C'est dans la Bible, vous deveniez participants de la nature divine. Sinclair Ferguson dit ceci, en tant qu'image de Dieu, l'homme a été créé pour refléter et exprimer la gloire de Dieu, pour y participer à la gloire de Dieu en miniature, tout en restant créature et pas le créateur. Et bien sûr, il a péché, donc il a été privé de la gloire de Dieu. Mais il dit, la restauration est affectée par le moyen de l'œuvre de la sanctification de l'Esprit. Il prend des hommes qui ont déformé l'image de Dieu dans la honte et du péché, et il les transforme en des hommes qui portent, on peut ajouter de nouveau, donc, cette image dans la gloire. C'est ce que signifie participer à la nature divine. On peut porter en nous l'image même de Dieu. Et donc, il importe de baser notre compréhension du fruit de l'esprit, dit un autre pasteur, sur ces grands attributs fondamentaux de la divinité. Et pour cette raison que le fruit spirituel est le résultat de notre participation à la nature divine par l'œuvre de la régénération du Saint-Esprit. Et grandit dans nos vies, son caractère grandit dans nos vies quand nous marchons en communion avec Dieu par l'Esprit. Vous voyez, toutes ces choses nous viennent en communion avec Dieu par son Esprit, grâce à l'œuvre de Dieu dans nos cœurs par l'Esprit. C'est un fruit de l'Esprit. Afin que nous participions, on peut dire, à sa fidélité. Être fidèle, donc, c'est d'être comme Christ grâce à notre relation avec Christ par le biais du Saint-Esprit. Un chrétien qui est peu fiable est un non-sens. Un chrétien doit être fiable parce qu'il a un sauveur qui est fiable. Il nous est donné de partager cette qualité divine et de recevoir la grâce d'être fidèle. C'est ce que Paul dit de lui-même en 1 Corinthiens 7, 25, il a reçu la grâce d'être fidèle. Donc, le fruit de l'Esprit, c'est quelque chose qui est produit en nous. Cette fidélité est produite en nous par l'Esprit. Troisièmement, je considérais le fait que la fidélité est une obligation envers Dieu. Une obligation envers Dieu. Et pour cela, je vous invite à trouver 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, pour voir que c'est un fruit de l'Esprit, mais un fruit qui est exigé de notre part. Nous devons être fidèles envers lui. Dieu est fidèle envers nous, mais nous devons être fidèles en toutes choses envers lui. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. Ainsi qu'on nous regarde, c'est l'apôtre Paul qui parle, comme des serviteurs de Christ. Ça, c'est notre identité. Serviteurs ou esclaves, littéralement. Esclaves de Jésus-Christ. Et des dispensateurs des mystères de Dieu. Alors, j'ai pas le temps de développer, mais quand il parle des mystères de Dieu, quand on voit ce qu'il a dit au chapitre 2, je crois qu'il parle ici de l'évangile de Dieu, de la parole de Dieu qui révèle la bonne nouvelle de Dieu. Donc, en tant qu'apôtre ou pasteur, il est confié ces mystères, cette bonne nouvelle, et il devient un dispensateur. J'ai trouvé d'autres traductions. Un intendant, un administrateur, un homme chargé de gérer, un responsable chargé de faire connaître, ou un économe. Donc ce mot décrit quelqu'un qui est chargé de l'administration matérielle ou de la dépense d'argent dans un établissement ou dans une grande maison. Pensez au rôle qu'avait Joseph dans la maison de Potiphar, ou plus tard pour Pharaon même. Pensez au serviteur qu'Abraham a envoyé pour chercher une femme pour son fils Isaac. La Bible dit qu'il était l'intendant de tous ses biens. Ça, c'est le mot ici en 1 Corinthiens 4. Nous sommes des serviteurs, des esclaves de Dieu et des intendants. C'est-à-dire que Dieu nous a donné quelque chose, a mis quelque chose dans nos mains et nous avons la charge d'un bien précieux qui nous est confié. Toujours un esclave. Mais un esclave avec une grande responsabilité. Et quelle est cette responsabilité? Ben, c'était les mystères de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Mais je crois qu'on peut élargir à tout ce que Dieu nous donne, tous les ministères que Dieu nous confie. Il nous confie quelque chose, nous devenons économes, nous devenons donc des dispensateurs d'un bien que Dieu a mis en, dans nos mains. Et le verset 2 commence avec ces mots. Regardez-le. 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs ou de ses intendants, ce qu'on demande à un gérant, ou en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Le Darby dit, au reste, ce qui est requis à des administrateurs. Godet dit, or ce qui reste à requérir de la part des administrateurs, c'est que, une fois que Dieu a confié quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu attend de lui? C'est qu'il soit fidèle. Qu'il soit fidèle. Et Godet dit cela par rapport au ministère de la parole, au ministre de la parole. Il dit, une fois le ministère d'enseignement confié par Dieu à un homme, il n'y a plus à demander s'il est plus ou moins éloquent, plus ou moins profond, plus ou moins captivant. Dieu qui l'a choisi et envoyé est celui qui est celui que concernent toutes ces questions. Mais seulement, quoi? Qu'il soit fidèle. Et c'est ce que Dieu exige de nous tous. 2 Timothée 2, verset 2, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes. » Quel type d'homme? Intelligent, riche, des hommes fidèles. C'est ceux dont l'Église en a le plus besoin. Pas des hommes qui ont des diplômes, pas des hommes qui se croient intelligents, mais des hommes qui soient fidèles. Fidèles à Dieu et à sa parole. Du reste, ce qu'on demande, ce qui reste à requérir des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être fidèle? Je vous pose la question. Deux fois dans cette lettre, il va leur dire que Dieu est fidèle, en 1 Corinthiens 1, 9 et 10, 13. Plus tard, dans le même chapitre, il va dire que Timothée est fidèle, sur verset 17. Il va dire aussi, je l'ai déjà mentionné, mais au chapitre 7, verset 25, que son avis à lui, et que lui-même, grâce à Dieu, est fidèle. Être fidèle est certainement plus que le simple fait de continuer à faire le même travail année après année. Je peux pas dire, bon, je fais la même chose depuis 25 ans, donc je suis fidèle. Un employé qui arrive chaque jour au travail n'est pas pour cette raison seule considéré comme un employé fidèle. Certes, il est présent, mais c'est tout autre chose d'être fidèle à accomplir ses responsabilités. Cette obligation d'être fidèle à la tâche que Dieu nous donne est quelque chose, en fait, de beaucoup plus exigeante qu'on croirait au premier abord. Il est fidèle, et je cite encore le commentateur suisse Frédéric Godet, il dit, il est fidèle quand il donne consciencieusement ce qui lui est confié. Quand il le met au service, quand il met au service de cette tâche tous les dons et toutes les forces dont il est doué. Quand, comme un serviteur dévoué, il n'a qu'un seul intérêt, la cause de son maître. On ne peut lui demander compte que de l'emploi consciencieux de ce qu'il a reçu. L'idée de ce verset est donc que la seule chose dont l'intendant soit responsable, c'est sa fidélité. Pensez encore à Joseph. Il était tellement fidèle que Potiphar lui faisait confiance pour tout. Pour tout. Sans aucune crainte. Il savait qu'il allait être là. Il savait qu'il allait faire l'œuvre. Il savait qu'il pouvait compter sur Joseph. Nous avons donc cette responsabilité pour tout ce que nous donne. C'est intéressant ce que c'est l'Esprit qui produit ce fruit en nous, mais c'est l'Esprit qui donne les dons. 1 Corinthiens 12, verset 7, dit que chacun À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 11. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, l'Esprit vous donne au moins un don pour le bien de l'Église, et puis il va travailler en vous une fidélité pour que vous puissiez rester fidèle à exercer, avec la force qu'il vous donne, ce don pour le bien commun ou pour l'utilité commune. Donc il faut être fidèle. Et dans quel domaine faut-il être fidèle? Jésus racontait une histoire de l'économe infidèle. Et il dit en Luc 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Il faut être fidèle dans les moindres choses. Et quand vous êtes fidèle dans les moindres choses, selon Dieu, vous êtes fidèle même dans les grandes. Imaginez que on vous donne le rôle de Joseph devant Pharaon, premier ministre de l'État. Vous direz, ah oui, je dois être fidèle, je dois bien faire mon travail. Mais est-ce que vous aurez la même fidélité quand vous êtes simple esclave de Potiphar? Et rappelez-vous, quand Joseph est entré dans la maison de Potiphar, il n'était qu'un simple esclave, très bas dans l'échelle, si vous voulez. Il faisait certainement des tâches horribles, mais il était fidèle dans les moindres choses. La difficulté la plus grande, je crois, dans toute l'Église, c'est de trouver des personnes fidèles sur lesquelles nous pouvons compter. Ah, si c'est quelque chose d'important, si c'est quelque chose de visible, bien sûr, il y a des gens qui vont se présenter, qui vont être là et qui vont vouloir participer, mais il y a des tâches minimes, il y a des tâches invisibles, il y a le ménage, il y a d'autres choses comme ça. Et il nous manque souvent des gens fidèles. Mais Dieu dit qu'il est requis à tous ses serviteurs d'être fidèles dans la moindre des choses. Et lorsque les récompenses viendra, il dit, Luc 19, verset 17, il parle, c'est la parabole de l'argent à faire fructifier ou des 10 mines. Et le maître dit au serviteur, c'est bien bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Dieu regarde, il vous voit pendant toute votre vie fidèle à de petites choses, et il vous confie plus tard de très grandes responsabilités. Dieu veut que nous soyons fidèles. Et pour nous encourager, j'aimerais lire Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ou dans une autre traduction, faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. C'est-à-dire, il faut rester fidèle. Même s'il n'y a pas encore la récolte, il faut rester fidèle sans nous lasser à faire le bien. Dieu veut travailler en nous la fidélité. Est-ce que vos amis peuvent compter sur vous? Est-ce que votre famille, mari, femme, enfant, parents, est-ce qu'ils peuvent comptez sur vous. Enfants, vous avez déjà des tâches, déjà des responsabilités, que ce soit à l'école, même en distance, que ce soit à la maison. Est-ce que vous êtes fidèles dans toutes les tâches que Dieu vous donne? Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes fidèles dans vos responsabilités à l'Église? Est-ce que les pasteurs peuvent compter sur vous? C'est ce que l'Esprit veut travailler en nous. Et ça vient dans notre communion, dans notre marche avec Dieu par son esprit. Et alors je termine maintenant avec cette bénédiction que j'aime beaucoup parce que ça démontre que notre fidélité est finalement liée à sa fidélité envers nous. C'est en 1 Thessaloniciens 5:23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout de suite après, il dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Mes amis, pour moi, c'est le plus grand encouragement. Quand je regarde les responsabilités que Dieu me donne, c'est un poids insupportable jusqu'à ce que je pense au fait que Dieu, qui me les a confiées, est fidèle. Il est fidèle et il est toujours avec moi. Et ma fidélité n'est que le reflet, un tout petit reflet de son immense fidélité envers moi. Prions le Seigneur. Ô Dieu, pardonne-nous notre manque de fidélité. Pardonne-nous de ces promesses que nous avons faites devant toi et devant les hommes, où nous n'avons pas gardé foi, tenu nos responsabilités, tenu nos engagements. Aide-nous à voir ces choses comme les péchés qu'ils sont et produis en nous par ton esprit une plus grande fidélité dans même les moindres de choses pour que ce soit pour ta gloire et pour notre joie. Car nous prions ces choses au nom de Jésus, le témoin fidèle. Amen. Que Dieu, dans sa fidélité, vous bénisse.